France Culture.
À voix nue avec
Alain Minc.
Épisode 5, héritage et postérité, Alain Minc, une figure indémodable.
Indémodable, vous me prêtez beaucoup de chance.
Quels sont vos regrets, Alain Minc ?
Je fonctionne pas comme ça. J'ai dit que je regrettais de pas avoir été gaulliste, mais que la trajectoire intellectuelle et politique venant d'où je venais, c'est-à-dire d'un milieu communiste, d'une certaine manière, aurait exigé une capacité d'autonomie que je n'ai pas eue. Mais ça, je le regrette. Je regrette d'avoir été ardemment mendiciste et pas gaulliste, je vous l'ai dit. Je pense que c'était un relatif manque de jugeote. Pour le reste, je peux avoir des regrets intellectuels. Là, dans mon dernier bouquin, je m'amuse dans la dernière partie de dire ce que j'appelle mes ratés, c'est-à-dire les choses que j'ai pas vues ou sous-estimées ou mal évaluées. Mais ça, c'est pas des regrets, par définition.
Lesquels ?
J'ai toujours sous-estimé la dynamique liée à l'environnement. J'ai jamais été à l'aise face à la pensée écologique parce que je pense que le choix idéologique de la nature est un choix conservateur et que dans la rupture nature-culture, je préfère le choix de la culture. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, le problème environnemental existe et il est massif, mais parce qu'il était défendu par des gens avec lesquels je n'avais aucun atome crochu, j'ai fini par faire l'impasse sur le sujet à cause de ses défenseurs. Et puis je pense profondément, au-delà de ça, ça c'est anecdotique, qu'il y a quelque chose de très réactionnaire dans le choix de la nature. Très réactionnaire. Je pense que ce que ça représente en termes de illusion de ce qu'on a de pureté, de retour aux racines. Souvent je dis qu'il faut jamais oublier qu'un des premiers décrets antisémites du gouvernement nazi, c'est l'interdiction pour les juifs d'entrer dans les forêts domaniales. C'est extraordinaire. Ça veut dire la pureté de la nature est souillée par ce peuple de trop. Voilà, donc à cause de tout ça, j'ai jamais été à l'aise pour penser le problème environnemental.
Pourquoi ? Parce que vous êtes un homme des villes
Oui, je suis un homme des villes, par définition. D'ailleurs, c'est en général le propre des juifs, hein. Il n'y a pas beaucoup de paysans.
Paysans à Brest-Litovski.
Oui, mais enfin bon. Mais j'ai été élevé dans une ville, je suis un homme du bitume, il n'y a pas de doute.
Mais par exemple, cette famille...
Oui, mais je connais la campagne. Mais c'est comme ça, il y a les gens du bitume et il y a les gens des champs. Je suis du côté du bitume.
Parmi vos... Alors, non pas vos regrets, mais des regrets plus existentiels, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire ou vous aimeriez faire ?
Non, non. Mais je vais vous dire une chose qui va vous paraître peut-être paradoxale. Je ne m'intéresse pas. Une des raisons pour lesquelles je suis peut-être aussi heurté par les conséquences politiques du narcissisme d'Emmanuel Macron, c'est que je crois vraiment être... Là, vous m'imposez un très agréable exercice, mais qui est très à rebours de ce que je suis. Je crois être aux antipodes du narcissisme.
Pourtant, on a la sensation que lorsqu'on fait ce que vous faites, on est obligatoirement, sinon narcissique, du moins sûr de soi, dominateur.
Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On peut être intellectuellement sûr de soi, parfois trop, mais sans penser que le monde n'a qu'un centre que vous.
On vous prête de grandes capacités de manipulation des êtres.
Je ne crois pas que je suis un manipulateur des êtres, mais je pense que je comprends les gens.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que... Mais ça, c'est un fait d'expérience. Je veux dire, j'ai connu tellement de gens pendant tellement d'années que vous arrivez assez vite à percer à jour les gens. Bon, ça, c'est vrai. Mais c'est l'effet de l'expérience, disons, d'une intelligence raisonnable et d'une grande expérience.
Bon, mais par exemple, Mitterrand disait que l'une des vertus pour un gouvernant était l'indifférence. Vous êtes indifférent ?
Non. J'aurais été un mauvais gouvernant. Enfin, ça dépend indifférent à quoi ? Indifférent aux critiques ? Oui. Oui. Indifférent aux autres, non. C'est d'ailleurs en ça que je crois être aux antipodes du narcissisme. J'ai des amitiés d'une solidité absolue. Je crois que je suis un bon ami.
Mais on a l'impression, tant mieux pour vous d'ailleurs, que les critiques ne vous atteignent pas du tout.
Non, j'ai le cuir d'un politique. Alors ça, j'ai aucun doute. Mais vous savez, ça fait quand même 46 ans qu'à ma petite place, je suis dans le débat public. Bon, alors si vous n'avez pas le cuir épais, alors vraiment, il vaut mieux arrêter. Hein.
Mais est-ce que c'est le cuir épais chez ces personnages ?
Mais je connais des personnages que je fréquente, qui sont souvent des personnages d'une très grande importance, qui ont des peaux de jeunes filles. Par exemple, les patrons d'entreprise ont des peaux de jeunes filles en général. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop protégés. Ils sont protégés par des services de communication que les politiques, et ça participe de l'admiration que j'ai pour eux, n'ont pas, parce que quand ils vont mettre leur tract au marché et qu'ils se font engueuler, là, il n'y a pas de watt. Donc voilà, dans ça, les critiques, je les lis, mais elles ne me blessent pas.
La psychanalyse ?
Ah non, alors non. Enfin, je ne me vois absolument pas, sauf celle que je viens de faire avec vous, mais c'est une version allégée. Je n'aurais jamais été un bon gibier de psychanalyse.
Votre sœur l'est, si je ne m'abuse ?
Non, non, pas du tout. Dans la famille, on a été éduqués à être rétifs à la psychanalyse. Alors, cela dit, intellectuellement, ça m'intéresse, évidemment. Je pense que Freud a découvert un continent totalement inconnu, qui était l'inconscient. Bien sûr que ça m'intéresse. D'une certaine façon, les jeux lacaniens me paraissent stimulants. Je ne sais pas s'ils sont justes, mais ils sont stimulants. Mais pas plus que ça. C'est une très jolie discipline intellectuelle.
Pourquoi ne vous êtes-vous pas soumis à...
Parce que j'en éprouve pas le besoin. J'ai pas de problème à régler, ni avec moi, ni avec les autres. Bon, et puis j'ai vu beaucoup d'amis qui ont eu des problèmes psychiques ou psychologiques graves, et j'ai quand même constaté que le bon médicament, la bonne molécule bien choisie, c'est plus efficace que les heures de psychanalyse. Hein.
Mais justement, le fait de se connaître soi-même, puisque vous avez consacré beaucoup de temps à la lecture, je crois que Proust occupe une place importante.
Oui, oui, enfin beaucoup. Hein. J'ai beaucoup lu Proust, mais j'ai lu beaucoup, beaucoup d'auteurs.
Je pensais que vous relisiez chaque année Proust.
Non, pas Proust. Je relis chaque année. Je trouve l'exercice de la relecture extrêmement intéressant. Par exemple, quand on est jeune, on est fasciné par Dostoïevski. Quand on a franchi la ligne d'ombre, on est fasciné par Tolstoï. Je trouve, par exemple, quand vous relisez Stendhal, d'une certaine façon, je trouve que La Chartreuse, c'est mieux que Le Rouge et le Noir. Je pense que quand vous relisez Flaubert, vous vous apercevez, puis ce sont des goûts personnels, que l'éducation sentimentale, c'est artificiel, et que Madame Bovary, c'est beaucoup plus intéressant. On peut continuer comme ça. L'exercice de la relecture est un exercice très, très, très intéressant.
Qu'est-ce que votre métier vous a appris sur les femmes et sur les hommes, Alain Minc ?
Je ne vais pas vous donner une réponse à la con, du style « rien n'est jamais perdu » ou des trucs comme ça. Il n'y a pas de réponse à votre question. Ce que je crois, par exemple, pardon, je vais quand même vous répondre. Je pense que la psychologie est quelque chose de décisif dans les grandes décisions. Au moins autant, voire plus que la raison, la psychologie des êtres. Et récemment, je prends trois exemples, mais dont je ne vous citerai qu'un, que les deux autres sont des exemples que je ne veux pas rendre publics. Je connais trois personnes extrêmement intelligentes qui ont pris dans leur vie des décisions idiotes. Quand quelqu'un de très intelligent prend une décision idiote, c'est un problème psychologique. Le cas que j'assume publiquement, c'est de le dire de Macron à propos de son narcissisme. Je connais le cas d'un autre personnage public qui a pris des positions idiotes parce qu'il a été victime, alors qu'il est très intelligent, de sa mégalomanie. J'en connais un troisième dans la vie du business qui est peut-être le plus intelligent de tous, peut-être le type le plus intelligent que j'ai rencontré de ma vie, en point de QI, qui a pris des décisions idiotes parce qu'il est paranoïaque. Ça, c'est interpellant. C'est-à-dire des gens qui sont intellectuellement hors normes et qui peuvent prendre des décisions qu'une intelligence moyenne, en réalité, n'aurait pas prises. Là, il y a la foudre qui tombe sur eux. Et la foudre, c'est leur psychologie.
Mais alors, ça, c'est amusant parce que vous avez un goût du paradoxe, on en a parlé. Et donc, je pense que vous êtes quelqu'un qui prône la rationalité, mais vous êtes souvent irrationaliste dans vos explications.
Non, je prône la rationalité dans l'ordre économique. Mais là, c'est pas la rationalité. Je vous ai dit que c'est la loi de la pesanteur. Bon, pour moi, elle existe. Je pense qu'il existe des lois de la pesanteur de la même manière en économie. Mais je pense profondément qu'il y a des explications irrationnelles de décisions décisives. D'une certaine façon, lorsque De Gaulle s'envole pour Londres le 17 juin 40, il y a une part d'irrationalité. Et souvent, les grands actes fondateurs sont des actes irrationnels. Si le monde n'était gouverné que par des petits êtres rationnels, qu'est-ce qui serait emmerdant ?
Parlons des Juifs, puisque nous l'avons évoqué en introduction. Et lorsque l'on a évoqué l'antisémitisme, vous avez dit que vous sentiez une résurgence de cela. Comment ça se manifeste ?
Non, mais... Je ne suis pas aveugle, mais je n'arrive pas à entrer dans la paranoïa non plus. C'est-à-dire, je pense, ça va vous paraître, alors peut-être pas paradoxal, mais naïf, irénique ou je ne sais quoi, je pense que le modèle français a quand même, à la vague d'antisémitisme qui a suivi le 7 octobre, plutôt mieux résisté que d'autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu 300 000 personnes défilant à Paris en disant « One Palestine from the sea to the river », c'est-à-dire la destruction d'Israël. Ceci à Londres, dans un pays où la communauté musulmane est moins importante qu'en France et où en plus, pour une bonne part, elle n'est pas d'origine arabe, elle est d'origine orientale. Et où la communauté juive est deux fois plus petite qu'elle ne l'est en France. Je veux dire, les manifs Place de la République, des 2000 ou 3000 types qui sont vaguement les bobos insoumis qui descendent de Boboland, c'est pas de même ampleur. Alors oui, il y a eu les actes antisémites. Bon, Dieu merci, il y a eu peu d'actes porteurs d'homicides. Mais il y a eu aussi des actes antisémites dont on devinait tout de suite qu'ils étaient des manipulations, je veux dire... Il y a eu deux moments de manipulation évidente. C'était les étoiles de David bleues, qui étaient d'ailleurs faites très proprement. On voyait bien que c'était des impostes. Et il y a eu les mains rouges tachées de sang sur les murs du mémorial.
Mémorial de la rue Geoffroy-Lanier.
C'était évident que c'était une histoire de manipulation par les services. À l'instant, ça se voyait, ça l'était. Et c'est en ça que la responsabilité de Mélenchon est considérable. Considérable. C'est-à-dire qu'il jette de l'huile sur ce feu-là. Et c'est pas bien. Mais pour le reste, je suis lucide. Ça n'a rien à voir avec les autres gestes antisémites, évidemment, qu'on a vus. Mais ce que je vais vous dire profondément, c'est que la grande différence avec les années 30, c'est que au moment de l'antisémitisme des années 30, les institutions, ce qui ne veut pas dire que les institutions politiques, ne se coagulent pas pour venir faire bouclier face à l'antisémitisme. Aujourd'hui, toutes les institutions se coagulent. Et je suis de ceux que la présence de Madame Le Pen à la manif l'an dernier a réjoui. Et à cette occasion, je disais, si l'Action française en 38 avait manifesté contre l'antisémitisme, 40 n'aurait pas été 40. Donc je crois qu'il y a des germes de résistance à l'antisémitisme. En revanche... Ce qui est paradoxal, c'est que les anti-Dreyfusards d'hier sont devenus les Dreyfusards d'aujourd'hui et les Dreyfusards de l'époque, les héritiers des Dreyfusards de l'époque, sont devenus les anti-Dreyfusards. C'est-à-dire que l'antisémitisme d'extrême gauche est insupportable.
10% des Français se réjouiraient de vous voir partir, pas vous Alain Minc, mais... Vous les juifs.
Mais j'aimerais bien savoir quelle est la définition exacte, l'enracinement politique à cet égard de ces 10%. Et je pense que la montée de l'antisémitisme d'extrême gauche, si vous voulez, dans les 22% de Français qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, dans la réserve de voix qui n'a pas voté pour lui parce qu'ils n'ont pas voté, mais qui peut un jour voter, qui est celle qui recherche dans les quartiers des banlieues, je pense que le taux de me voir partir est plus élevé là qu'il ne l'est dans le 16e arrondissement.
Israël, pour vous, ça n'a jamais été la terre promise ?
Non. Pour dire les choses différemment, évidemment que je souhaite qu'Israël demeure en tant qu'État, évidemment. Évidemment qu'il y a des choses dans ce pays que je trouve fascinant, cette espèce d'hyper-développement, mais aussi des choses qui me troublent. C'est probablement le pays du monde où il y a le plus de points de quotient intellectuel au mètre carré. Et qu'un pays où il y a une telle capacité de quotient intellectuel aboutisse à une politique étrangère absurde, ça m'interpelle. Je veux dire que l'Israël des accords d'Oslo, l'Israël de mon ami Eli Barnavi, soit devenu minoritaire face à la montée d'un extrémisme insupportable. Je parle pas de Netanyahou. Netanyahou est l'expression absolue du cynisme en politique. Il a pris des décisions dont je pense, comme c'est un vrai politique, qu'au fond lui-même, il sait qu'elles sont peut-être pas celle qu'il fallait prendre, mais il l'a fait pour son autodéfense, parce qu'il veut pas aller en tôle. Bon, voilà, ces choses sont ainsi faites. Mais qu'un pays aussi sophistiqué n'ait pas la compréhension de ce qu'il faut faire politiquement, ça m'interpelle. Et pour répondre à votre question, si je devais quitter ce pays, ce n'est pas en Israël que j'irais.
Bon, la question suivante, vous la devinez alors?
J'irai à Londres. Parce que c'est pour moi la quintessence de la démocratie. Pas à New York, à Londres.
Pourtant, j'ai cru comprendre que les manifestations...
Oui, non, mais il y a ces manifestations. Mais je pense que c'est un pays où vous vivez dans vos tripes la démocratie. Et puis, je suis de ceux qui pensent profondément que sans Churchill, je ne serais pas né. L'été 40, c'est probablement le plus beau moment de l'histoire qu'on puisse imaginer. Le plus admirable. C'est-à-dire un homme qui s'impose à un establishment lâche, car il ne faut jamais oublier qu'on vote dans le cabinet britannique, que Churchill a besoin des voix des travaillistes pour résister aux voix des conservateurs qui sont prêts à tous les compromis dirigés par Halifax. Bon, un homme seul, une population à l'endurance exceptionnelle, c'est extraordinaire. Le gaullisme, c'est beau, mais ça ne change pas la face du monde. Churchill change la face du monde. Non, De Gaulle change la face de la France. Churchill change la face du monde.
Mais alors, Churchill n'était pas du tout dans le cercle de la raison.
Non, enfin, il n'était pas dans le cercle de la raison. Oui, enfin, il a même pris des décisions économiques, chancelier de l'échiquier, qu'on pouvait croire dans le cercle de la raison, mais qui étaient folles. C'est-à-dire le retour à la convertibilité or au cours de la livre sterling d'avant la guerre. C'est vrai, mais peut-être que l'irrationalité a joué un rôle cardinal, mais le peuple anglais a tenu extraordinairement. Bon, et moi, j'ai une admiration sans borne pour l'Angleterre pour une autre raison. Je veux dire, ce pays a dominé un quart de l'humanité à partir d'une petite île isolée, et il faut énormément d'intelligence pour ce faire. Et par exemple, je pense que la colonisation britannique, et ça explique d'ailleurs que les traces de la colonisation britannique soient aussi durables, a été sublimement intelligente. D'ailleurs, le pays, il n'y a qu'un pays où les Français ont colonisé de manière britannique, c'est le Maroc. C'est-à-dire Lyoté a colonisé comme un Britannique, en réalité. Et à part les maladresses récentes qu'on a connues, le Maroc est une vraie réussite, y compris dans ses liens avec nous.
Lorsque vous reprenez le fil de l'histoire des Minks, comment vous vous inscrivez dans cette identité? Vous avez commencé à vous définir tout à l'heure français, non. Juif, marxiste.
Non, j'ai dit européen, virgule, français, virgule, accessoirement juif. Pourquoi européen? Parce que, pour la raison que je vous ai dite, je crois que je vous l'ai dit, pardon de me répéter, mais ça au moins c'est une antienne viscérale. Je ne crois pas à la supériorité de l'Occident, je crois à la supériorité du modèle occidental, et je pense que le modèle occidental désormais n'est incarné que par le modèle européen.
Pourquoi ?
Parce que les États-Unis sont en train de devenir de moins en moins un pays occidental et de plus en plus un pays monde. Ils deviennent le syncrétisme du monde entier. Et quand, dans 20 ans ou 30 ans, les Sino-Américains, c'est-à-dire les Américains d'origine chinoise, auront remplacé les WASP, et les Indo-Américains, les Américains d'origine indienne, auront remplacé les Juifs, on ne peut pas dire que les États-Unis seront tournés vers l'Europe comme ils le sont aujourd'hui. Ils sont tournés vers le monde entier.
Qu'est-ce qui va arriver aux Juifs ?
Je pense qu'il ne leur arrivera rien de dramatique à l'échelle de ce qu'ils ont connu. Mais je pense simultanément que les Juifs perdureront. C'est-à-dire, quand on a perduré aussi longtemps, qu'on a survécu aussi longtemps, on continuera à survivre. Ils continueront à survivre. Pourquoi ? J'ai eu fait un lapsus, j'ai dit « on continuera ». Et vous avez vu, j'ai corrigé, j'ai dit « ils continueront ».
Pourquoi dites-vous accessoirement juif ?
C'est parce que c'est pas décisif dans mon identité. Je suis juif au sens sartrien du terme. C'est-à-dire, je suis naturellement juif par le regard des autres et je l'assume comme tel. Alors on me dit, ma forme d'esprit, c'est le talmudisme, c'est pas vrai. C'est la dialectique des bons esprits à la française. Je me sens profondément un bon esprit. Bon, j'en sais rien. Enfin, un esprit à la française.
Mais je ne sais pas si il vous arrive de dialoguer avec votre père, avec vos ancêtres, avec...
Non.
Vous n'avez pas de dialogue intérieur
Non. Non, j'ai des souvenirs de l'affectif. Ah non, alors ça, pas du tout. Non, 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 je suis pas assez compliqué pour ça.
Mais alors, dans cette filiation par rapport à cette histoire des Juifs ashkénazes que vous incarnez peut-être à votre corps défendant, mais que vous incarnez également.
Écoutez, mes petits-enfants ne sont qu'un quart juif.
Comment ils le voient, justement, vos enfants, vos petits-enfants, cette identité-là ?
Ils regardent l'univers juif avec la sympathie de gens intelligents, libéraux et bien élevés. Mais ils n'ont pas le lien physique que moi j'ai quand même à travers la Shoah. Mais j'ai découvert une chose en devenant grand-père. J'ai compris ce que c'était d'avoir été privé de ses grands-parents. Ça, c'est exact. Voilà. Mais eux, ils sont totalement insérés avec une petite composante juive. Alors eux, c'est accessoirement accessoire.
Mais alors c'est étrange, parce que pas de dialogue avec vos aïeux lorsque votre père était là, parce que votre père a disparu très âgé, il avait 103 ans lorsqu'il...
103 ans, oui, ça me donne de l'espoir.
Hein. Ça me laisse la possibilité d'avoir encore de nombreuses discussions, mais lorsque justement celui-ci a disparu, ou avant qu'il disparaisse, est-ce qu'il évoquait la place que vous aviez pris en ville, le regard qu'il portait sur...
Sur mon itinéraire, oui, il en était plutôt fier, parce que il devait se dire que moi j'ai pu faire ce que les circonstances ne lui ont pas permis de faire. Il en avait la capacité. Mais... ça me travaille pas, tout ça.
Quand est-ce que vous écrirez vos mémoires ?
Non. Là, j'ai fait un petit bouquin avec des petits bouts de mémoire, mais je le ferai pas. Je le ferai pas parce que je trouve qu'il y a un moment où c'est un exercice narcissique.
Dans des mémoires, on peut parler des autres.
Oui, mais je ferai peut-être d'autres portraits de gens que j'ai rencontrés. Mais c'est parler d'eux, c'est pas parler de...
Parce que vous avez déjà fait des portraits... d'intellectuels, des portraits de politiques, des portraits donc de...
Je verrai, mais ça c'est un exercice. Mais des mémoires, non merci.
Au fur et à mesure de cette conversation, on a évoqué un certain nombre de choses. Vous parliez de l'époque où l'on vendait des livres. Je me suis rendu compte quand on a parlé du Monde que cette histoire était quand même inouïe parce que jamais un livre comme le bouquin de Péan aujourd'hui ne pourrait avoir ce... Quelle sensation ça vous donne ?
J'appartiens à un monde à certains égards révolu. Mais je suis pas du tout en train de dire que c'est moins bien. Je pense, par exemple, quand je regarde les jeunes, souvent je dis, nous, nous savions tout et nous ne comprenons rien, et eux ne savent rien et comprennent tout. Alors, il y a une espèce de volonté provocatrice à dire ça, mais je le pense assez. C'est-à-dire, bon, oui, l'influence des bouquins décroît, mais malgré tout, à travers leurs moyens d'information, ils ont une connaissance du monde incroyablement large. Et je pense que, globalement, je suis pas sûr qu'il y a chez eux les capacités de penser faux comme il y en avait dans ma génération. Donc, d'un côté, je dis que j'appartiens à un monde révolu, mais je ne dis pas du tout que le monde qui vient est un enfer et que nous étions le paradis. Voilà, c'est comme ça. Puis là aussi, je trouve qu'il y a des phénomènes devant lesquels c'est pas la peine d'avoir des émotions. C'est comme ça. C'est d'ailleurs un instrument de sérénité de dire « c'est comme ça ».
Lorsque vous voyez justement ce monde révolu et que vous imaginez un jeune, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire aujourd'hui? Est-ce que le sort de ce jeune vous paraît plus compliqué, plus difficile?
Ça dépend. Oui et non. Je pense que le monde est plus concurrentiel, plus dur, même pour les jeunes diplômés. Mais le temps des rentes a disparu, des rentes telles que celles dont moi j'ai pu bénéficier, la rente des diplômes accumulés qui vous donne tous les droits. Mais je pense aussi que pour ceux qui savent donner un coup de rein et qui ne sont pas issus des systèmes, la capacité de faire est immense. Je veux dire, je pense que dans les banlieues, il y a beaucoup de jeunes start-upers, c'est-à-dire de jeunes qui trouvent leurs moyens d'expression en dehors des circuits classiques de la formation. Donc, c'est plus difficile. Ils seront moins protégés que nous, mais ils ont plus d'opportunités que nous. Je ne parle pas des gens de mon espèce, bénéficiaires de toutes les rentes du système. Mais c'est-à-dire, les deux sont liés. Le monde est plus concurrentiel, mais les opportunités sont plus nombreuses.
À une époque, il y avait le marxisme, il y avait un certain nombre d'utopies et d'espérances. Aujourd'hui,
il n'y en a pas. Parce que la technologie est un moyen, c'est pas une espérance. C'est pas un hasard d'ailleurs si les religions font un retour dans leurs formes les plus rigides. C'est pas un hasard. Elles réoccupent l'espace que la disparition des utopies a libéré.
Alors ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Imaginez la génération d'avant, ou la génération d'encore avant, sans marxisme, sans communisme, qu'est-ce qu'ils auraient fait ?
Non, mais ils avaient la religion. Il y avait la religion ou le refus de la religion. C'est-à-dire l'affrontement entre l'Église et les athées était quelque chose d'extrêmement structurant. Aujourd'hui, l'Église catholique est une grosse ONG, grosso modo. Bon, les religions, comme on dit, du livre, sont... assez marginal. L'islam, c'est très difficile d'en parler parce que, au fond, on le connaît pas vraiment. C'est-à-dire que quand on regarde l'islam, on peut dire que le catholicisme a inventé l'athéisme. C'est-à-dire quand on dit ce qui est à Dieu est à Dieu, ce qui est à César, on a fondé l'athéisme. Et donc, c'est du cœur même du catholicisme que vient la notion de l'athéisme, c'est-à-dire d'une société séparée de la religion. Et d'ailleurs, Benoît XVI, dans le discours qui lui a été reproché de Ratisbonne, qui était un intellectuel supérieur, Benoît XVI, dit ça à sa manière dans son langage liturgique. Et c'est le reproche qu'il fait à la religion musulmane. Il dit « Vous n'avez pas fait cette séparation ». Et quand on regarde l'évolution du monde, on se dit « C'est vrai, c'est vrai ». Ils l'ont fait parfois artificiellement à travers des régimes militaires, mais ils l'ont pas fait entre eux. Est-ce que ça va se faire ? Peut-être. Je regarde avec beaucoup de curiosité, intéressé, de très loin, ce qui se passe en Arabie Saoudite. C'est-à-dire, il y a quand même dans ce que fait MBS...
MBS ?
Oui, le prince héritier, seul maître à bord de l'Arabie Saoudite. Il y a quand même dans ce que fait MBS un côté Pierre le Grand, avec les excès dans les deux sens, mais la modification comme ça en quelques années du rôle de la femme. Alors est-ce que ça veut dire que dans le monde musulman aussi, on finira par séparer ce qui est à Dieu et ce qui est à César ? Je ne sais pas. Je suis évidemment intéressé et intellectuellement humble face à cet univers que je ne maîtrise pas.
Merci beaucoup, Alain Minc.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue avec Alain Minc. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Prise de son, Julien Girard. Chargé de programme À Voix Nue, Daphné Abgral. Une série de Guillaume Erner, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.